bienvenue dans Certains Lama Show, l'émission qui rigolise les films à la sortie. C'était un rire de film d'horreur, ça, Thierry?
Alors, à la base, je voulais faire... Attends, je vais mieux le faire. Je voulais faire Shabba qui fait la bouche qui pète. Voilà.
Là, on l'a. C'est merveilleux. Alors, film de comédie, film d'horreur, on n'est pas loin. Parce que là, on vous a compilé des merveilles de comédie française. Au programme aujourd'hui, que des chefs-d'œuvre. Beaux-parents.
Le gendre de ma vie.
Quand on crie au loup.
Premier de la classe.
Ça a l'air fameux, n'est-ce pas?
Alors là, moi je dis, je signe tout de suite. Si on peut se faire une journée avec tous ces films à la suite, je serais ravi et conquis. J'aurais bien rigolé.
Écoute, je vais chercher mon Prozac et j'arrive. Bonjour et bienvenue dans Certains Lama Show. L'émission qui va manger avec les films le dimanche à la sortie. Salut Thierry.
Salut Thomas.
Aujourd'hui, un film familial, un film comédie, un film français, Beaux-parents. Un film qui réunit deux monstres sacrés du cinéma français, Didier Bourdon et Josiane Balasco, qui vont jouer les parents de la jeune Garance. Alors Garance interprétée par Charlie Bruno. Charlie Bruno, donc le personnage de Garance, donc Garance qui plaque son mec. Harold interprété par Ben Habar. Seulement voilà, le beau-fils est super copain avec les beaux-parents. Et du coup, ils vont continuer à se voir, même si la fille interdit à ses beaux-parents de voir son ex, ce qui est tout à fait normal. Et donc, situation décalage, situation ubuesque, décalée, burlesque. Et un festival de bonnes blagues et de bonne ambiance. Alors, réalisation de ce film, Hector Cabello Reyes, c'est son premier film. Une superbe comédie. Est-ce que ça sent bon quand même tout ça?
Mais ça sent super bon. Non, mais déjà, ne serait-ce que le constat, le postulat de base, on n'a jamais vu ça. Les parents qui se mêlent d'une relation parce qu'ils aiment bien l'un des deux parties et qui veulent faire en sorte que ça marche, on n'a jamais vu ça.
Non.
C'est une comédie de taré. Ça va être familial, ça va parler du couple, ça va être drôle. Déjà, ne serait-ce que là, Josiane Balasco, Didier Bourdon, du régal. Et puis attends, le mec là, il a bossé sur Poltergeist, il a bossé sur Low Cost. On est dans la fine crème de la comédie française.
Alors le mec en question, donc c'est Hector Cabello Reyes, qui est le réalisateur de ce film. C'est sa première réalisation. Et il a été scénariste de tous ses chefs-d'œuvre.
À Poltergeist, je m'en rappelle encore. Enfin, c'est-à-dire, c'est un bijou que j'ai envie de montrer justement à tous ceux qui...
Ah mais pour défendre la cause LGBT, je crois que c'est le film qu'il faut montrer.
Justement, voudrait encore fustiger la cause LGBT, Poltergeist est le film à montrer, quoi. Dire, il n'y a rien de plus intelligent. Et pareil, pour ceux qui ont peur en avion, Low Cost est un film exceptionnel.
Et alors, bon, donc Hector Cabello Reyes, il a réalisé ce film. Et en plus, comme il est scénariste à la base, il a également écrit le scénario. Mais il n'est pas tout seul à l'écriture du scénario. Il y a avec lui Ben Habar.
Bruno de son prénom.
Ouais, je savais même pas qu'il avait un prénom, je l'ai appris là comme ça en regardant le film.
Il a tout le temps été crédité sous Ben Habar, donc forcément, même quand il avait joué dans Incognito, je crois pas qu'il était crédité en Bruno Ben Habar. Écoute, si l'écriture de ce film est au niveau de l'écriture de ses morceaux, on va se régaler.
On s'en fout, on y va. Oh, je vous ai eu. Oh,
qu'est-ce qu'on a l'air joyeux, quoi.
Alors, petit secret de tournage quand même, on sort de table et j'ai réussi à faire boire Thierry, qui boit d'habitude ne boit quasiment pas. Là, on s'est tombé une quille de rouge. C'est pour ça qu'il est particulièrement enthousiaste. Voilà, pas de mystère.
Absolument pas, j'aime vraiment énormément tous les films précités.
Très bien, très bien. J'archive.
Je connais ma fille, elle a jamais été aussi heureuse.
Je suis détruite.
Je ne l'ai pas touché. Je suis fidèle.
T'as pécho?
Hein, mais non, j'ai pas pécho.
T'as pécho, elle est t'as pécho.
Voilà, ça c'est Chloé, c'est la bombe.
Le physique, la plupart des hommes s'en foutent.
C'est bien que vous soyez là pour lui dire adieu.
Adieu.
Parce que vous ne le verrez plus jamais.
J'y vais, moi.
Non.
On va s'en mettre ensemble. On est une famille. Il faut parler à Garance.
Non, mais je vais lui parler. Il faut mettre les poings sur lui.
Allez, la voilà.
La poêle,
la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle,
la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle, la poêle Il serait temps que vous vous réconciliez, non?
Ça, c'est pas possible.
Mais c'est toi qui est pas possible! On fout pas toute sa vie en l'air à cause d'un coup de...
Non, mais ça va, on a compris.
Qu'est-ce que vous avez pas compris dans la phrase « Il ne faut plus jamais le revoir »
Tu nous as pas fait suivre par un détective, quand même?
Si. Il est au fond du trou, c'est un homme brisé!
C'est qu'il pleure tout le temps. Pas là.
Beaux parents. Comme je le dis souvent, avant d'aller voir un film comme ça qui fait un peu peur, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Thierry.
Bah, on a eu ce qu'on attendait, on a été quand même très enthousiaste à l'idée d'y aller.
Le gars, on sautait au plafond.
Le gars bossait sur des trucs géniaux, et là, une fois de plus, c'est vrai ce que je disais, c'est comme Poltergeist, comme Low Cost, on est vraiment dans le haut panier de l'humour. C'est super drôle, putain, ça joue, c'est génial. C'est du dialogue, alors c'est écrit par Benabar, donc du coup, il y a le rythme un peu de la chanson française à texte. C'est génial, quoi.
Et la profondeur.
Ah ouais, non, c'est hyper profond, donc c'est l'histoire, donc du coup, de Garance.
Et Benabar.
Et Benabar, ouais, qui s'appelle Harold. Qui,
c'est déjà, rien que dans les prénoms trouvés, déjà on sent qu'il y a une plume, il y a une patte, il y a une inspiration.
On n'est pas sur les prénoms habituels. Regarde, le couple des parents joué par Balasco et Bourdon, donc s'appelle André et Colline. Ça change.
C'est original.
Ça fait du bien. C'est la comédie française qui se renouvelle. Donc du coup, voilà, c'est l'histoire d'Harold qui part en séminaire, c'est ça, ouais, pour signer un contrat. Bah, l'équivalent d'un séminaire, quoi. Il part pour signer un contrat. Et lors d'une soirée arrosée, sa collègue Chloé.
Qui est la femme de son patron. Et meilleur ami,
ouais, joué par Bruno Salomon. Qui, d'ailleurs, putain, j'ai halluciné parce que Bruno Salomon joue un handicapé. Et il y a une transformation physique qui est quand même forte.
Je ne l'ai pas reconnu tout de suite.
Non, c'est clair, moi pareil. Il joue un handicapé, c'est un truc de malade, quoi, je veux dire. Même François Cluzet dans Intouchable, voilà, parce que c'est la référence de l'handicapé qu'on a en France. Non, incroyable Bruno Salomon, ça fait plaisir de le voir justement.
Et puis ça renouvelle un peu l'image du handicap parce que ils font du sport ensemble, c'est-à-dire que bon, il y a Bruno Salomon qui pédale en fait avec les bras sur son fauteuil pendant que Benabar fait de la marche rapide.
Ouais, il fait de la marche rapide pour sacrifier justement parce qu'il aimerait faire de la course, mais pour... On l'apprend plus tard, c'est une révélation très émouvante, qu'il fait de la marche rapide justement pour pouvoir aller à la même allure que son pote pour ne pas le distancer. C'est beau.
Non, alors, je suis d'accord pour raconter des conneries, faire semblant qu'on a aimé, mais on va pas raconter des conneries sur le scénar du film, s'il vous plaît. À aucun moment il dit ça.
C'est trop tard là, c'est ça? Non, c'est trop tard.
On va finir par le voir.
Là, c'est le moment où on avoue que c'était de la grosse merde.
Oh putain.
Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai dit sur Poltergeist et Intouchable, c'est de la mouise. Hein. Je veux dire, jamais je soutiendrai ces films.
Intouchable, t'as pas aimé?
Non, pardon, pour Poltergeist et Low Cost.
Ah oui.
Jamais, non, Intouchable, ça va, c'est très bien. Jamais je soutiendrai ça. excusez-moi, pardon.
Aïe. Non, mais il y a du jeu. Moi, j'ai adoré le jeu d'acteur de la perceuse.
Ouais, c'est vrai que c'est un passage au début, ils sont dans une espèce de repas et Balasco, elle est beaucoup plus animée quand elle parle de tréteau, de plateau, de sol et de perceuse que quand elle doit parler aux autres personnages, quoi. Donc, du coup, ouais, il y a un passage avec une perceuse, voilà, qui fait des intrusions de chant et tout, c'est magnifique.
Voilà, non, sinon, pour en revenir au personnage de Bruno Salomon dont on parlait de lui, donc, oui, effectivement, non. Il est handicapé, ça n'apporte pas grand chose.
Ça sert à rien.
Bon, ça montre juste que les handicapés peuvent être chefs d'entreprise et tromper leur femme comme tout le monde.
Oui, voilà, oui, c'est pour ça sert à dire ça, quoi.
Ouais.
Mais bon, c'est pas non plus très bien amené, enfin, ça servait pas à grand chose, quoi, à part. Je sais pas. Ou alors c'est Bruno Salomon qui a dit vu que je joue jamais, si je joue, c'est dans une position rigolote, je sais pas.
Un rôle à César, tu crois?
Un rôle à César? Attends, c'est pas, ça se trouve, imagine, ça va remplir les salles. Le César du public.
Non, on était trois dans la salle, non. Non.
Donc ouais, c'est écrit par Benabar. Donc en plus, il y a écrit que c'est d'après une idée originale de Benabar. Alors, je sais pas s'il a un truc personnel là-dedans.
Mais oui, il a eu l'idée originale en sortant du genre de ma vie.
Peut-être, ouais. Peut-être, tellement. Mais même lui est pas impliqué, quoi. Enfin, c'est incroyable. Il joue tellement mal. En plus, Benabar a cette espèce de voix rock un peu graveleuse, très voilée. Et du coup, t'as l'impression qu'il est tout le temps en train de muer, le mec. Il a des soubresauts de voix tout le temps. Et puis en plus, voilà, vu qu'il passe son temps, et des fois il crie, des fois il crie pas, donc les intensités de voix, il maîtrise pas sa voix. C'est triste. Et non, il y a rien pour sauver. Je veux dire, on parlait de Balasco et Bourdon. Ah, même quand ils sont en roue libre, ils peuvent être bons parce qu'ils savent faire le taf. Surtout dans la comédie, je veux dire, c'est un écueil qu'ils ont tiré jusqu'à la moelle. Et même là, ils y croient pas une seule seconde. Je pense que la direction est horrible. Il y a un passage où on apprend, on s'en fout de toute façon, pour spoiler la balle, que Balasco aussi, oh là là, la coquine, elle avait trompé son mari il y a 30 ans. Et du coup, il y a Bourdon qui pète un câble, qui commence à éclater un vase et qui gueule. Et vraiment, c'est Bourdon tout seul qui fait « Comment ? Tu m'as trompé ? Je suis un homme trompé !» Et il est là, mais...
C'est la première fois que je vois Didier Bourdon aussi mal joué.
C'est ça. C'est ça.
Pourtant, il a joué dans des merdes. Hein. Mais jamais je l'ai vu se jouer aussi faux, c'est pas possible.
Alors, toi, tu pourras me dire pour Balasco, parce que je sais pas comment elle était dans All Inclusive. Mais on est aussi à une période où Balasco...
Elle en avait rien à foutre non plus, mais ça passait, quoi.
On est à une période où Balasco, elle joue dans Jusqu'à la garde, elle joue dans des trucs qui lui tiennent énormément à cœur, mais vu que ça lui rapporte pas grand-chose, elle est obligée d'aller cachetonner dans des merdes comme ça. Donc je comprends qu'elle en a rien à foutre, tant qu'elle reste brillante à côté. Mais non, mais c'est vrai que là... Oh, ce niveau de non-jeu, mais même les acteurs qui pourraient avoir quelque chose à sauver, genre la qui joue Garance, je sais pas spécialement qui c'est, donc c'est ces acteurs-là qui doivent montrer quelque chose, les autres ils en ont rien à foutre à la limite, et ils font rien. Ils font rien, enfin ils sont mauvais parce que tout est mauvais, le directeur d'acteur est mauvais.
Mais il y a une certaine crédibilité parce qu'en fait c'est l'histoire de du pauvre Benabar. En fait tout le monde croit qu'il a couché avec la femme de son patron alors qu'en fait comme elle était bourrée qu'elle voulait coucher avec lui parce que tu comprends il est trop beau mais en fait il est trop bien mais quand même c'est un mec bien donc quand une bombe atomique lui propose de coucher avec lui, il dit non, et il la fait coucher dans sa chambre et il va dormir. Enfin, ils inversent leur chambre parce qu'il est comme ça. Et que c'est un mec bien et qu'il aime bien répéter que c'est un mec bien et que si t'as pas compris que c'était un mec bien, il va le répéter encore. Le problème, c'est qu'il le joue tellement mal que personne n'y croit. Et en ça, c'est crédible. C'est que le mec a un jeu d'acteur tellement pas terrible que personne ne croit à son histoire, mais pas même le spectateur en fait.
Ouais. Ouais, non, mais c'est ça, mais bah, enfin. On croit en rien quoi. Mais le pire c'est que
même le twist du mec qui vient raconter à la fin l'histoire, pourquoi il le fait à la fin et pourquoi lui en plus
Oui ça tombe un peu nulle part la résolution de l'intrigue. Mais le pire c'est vraiment les tentatives d'humour constantes qui tombent mais tout le temps à plat. C'est assez incroyable hein, là-dessus, c'est vraiment... Enfin, le film fait un point d'orgue à tout faire tomber à plat. Il faut qu'on parle de la scène du restaurant. La scène du restaurant est symptomatique de tout le film, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire que la scène du restaurant... Alors, chaque fois, il y a un truc, on se dit... Putain, en fait, sur le papier, ça marche super bien. Sur le papier, je me dis qu'à écrire, tu te dis... Putain, ça peut marcher. Et une fois que c'est mis en place... Eh ben ça marche pas. En fait, la scène du restaurant, c'est en gros, ils vont au bistrot de leurs copains qu'ils ont pas vu depuis très longtemps et qui refait tout. C'est la mode du resto, le vieux bistrot qui se refait en mode moderne, de branchouille, qui refait la déco en design dégueulasse. Le design du mec qui a pas compris ce que c'était que le design, donc il met des couleurs aléatoires avec des néons, il croit que c'est beau et des meubles transparents, et en fait non, ça le fait pas, donc c'est moche. Il revisite ses plats, donc au lieu de faire de la tomate mozza, il fait une tomate marbrée avec un truc au buffle ou je sais pas quoi. Et évidemment, il fait monter les prix et il fait boire du vin bio dégueulasse et tu crois qu'il est bouchonné, mais non, en fait, il est bio. Donc il y a une ambiance de merde en plus, tu vois. C'est leur ami de 25 ans qui devient du jour au lendemain, qui devient un connard en fait. Et donc alors, ils se font la première scène une première fois avec Benabar parce que du coup, ils continuent à avoir les parents continuent à avoir le beau-fils. Et donc ils vont au resto et au bistrot ensemble. Et donc ça se passe très mal la première fois au resto. Ils s'engueulent avec le restaurateur. Ils sortent. La fille dans le coin les appelle. Ah, je suis dans le coin, j'arrive. Donc il planque le beau-fils, le gendre, il le planque. La fille arrive. Oh, vous êtes là, vous êtes à côté. On est à côté du resto de votre pote. On va y aller. Et du coup, ils vont à 5 minutes d'intervalle.
Ouais, alors qu'ils ont pété un énorme scandale juste avant, en mode vraiment, ils étaient sur le point de se foutre sur la gueule avec le restaurateur, quoi. Voilà.
Et donc, on leur refait la scène, on leur resserre le mauvais plat, un peu comme on nous resserre les mauvais sketchs. Et sur le papier, ça pourrait marcher, quoi. Je veux dire, il y a un potentiel, il y a du potentiel dans cette scène, mais ça reste à plat. C'est très triste. Hein. Pourtant, on pourrait avoir le restaurateur qui jouerait là-dessus, enfin, qui joue un peu, mais en fait, il se contente de refiler des plats dégueulasses et plus chers. Et puis, c'est un restaurateur quand... déjà, il y a un truc, c'est un restaurateur qui veut se la jouer haut de gamme, mais quand sa bouteille est bouchonnée, il la remplace pas parce qu'elle est ouverte. Évidemment. C'est que des trucs qui cassent aussi la crédulité. Quoi. C'est-à-dire que dès qu'on veut se raccrocher à un truc, ça marche pas.
À un moment, il leur dit limite qu'il a fait exprès de les pourrir parce que, quitte à moderniser son restaurant, il faut aussi qu'il modernise sa clientèle. Très subtil, quoi.
Oui, c'est des prolos. Les mecs, alors, Les mecs sont des prolos, il y a un plan sur la baraque à la fin.
Ouais, non, ils vivent dans une
énorme
baraque.
Les mecs, ils sont dans une énorme baraque avec un énorme jardin qui est directement accolé à un énorme lac. Mais je veux dire, je sais pas si ça, c'est pas ta clientèle de resto, je sais pas ce que c'est, quoi, ta clientèle.
Ouais.
Là, on s'attarde sur un détail à la con, mais tout est de ce niveau-là, quoi. Et l'emballement, le jeu, c'est même pour un téléfilm, c'est pénible, quoi. Parce que ouais, la réalisation, c'est niveau téléfilm, quoi.
Même, c'est même pas niveau téléfilm, parce que maintenant les téléfilms ont pris un certain galon, quoi. Enfin, je veux dire, les téléfilms tels qu'on les connaît, ça existe quasiment plus. Donc maintenant, c'est les films qui sont dédiés aux applications, à ce genre de trucs, et il y a un savoir-faire, que c'est pas fantastique, mais c'est quand même bien plus correct que ce qu'on a vu là. Là, il n'y a pas d'échelle de plan, il n'y a pas de volonté de scénario. Mais le seul plan que j'ai trouvé, à la limite, gaulé, c'est quand Benabar fait sa marche rapide et qu'il y a un plan torse qui le suit en travelling arrière. C'est le seul plan où j'ai fait, ouais, ça, y a une volonté de cinéma là, quoi.
Et alors moi, si le plus beau plan du film, c'est, je sais plus dans quel bled ils sont, il y a une magnifique photo sur la cathédrale et sur le village, sur la ville derrière. Là, il y a un beau plan. Là, regarde. Et je lui dis, ouais, mais ils ont dû le piquer à l'office du tourisme, quoi.
C'est ça, c'est un mélange d'office du tourisme. C'est l'office du tourisme de la ville de Thiers, vous présente, ou la carte au trésor, quoi.
Par contre, je sais pas dans quelle ville c'était, c'est dommage, du coup.
Ouais, je sais pas non plus. Mais en même temps, ils arrêtent pas, eux, de dire qu'ils sont à Paris, mais les parents sont pas à Paris, donc ils doivent être en région.
Ah, ils sont pas à Paris, là. La baraque où ils sont, c'est pas Paris.
Parisienne, c'est tout, je dirais. La question reste quand même, je veux dire, je pense pas que Benabar soit un mec qui pèse au cinéma, donc comment est-ce qu'ils ont fait pour obtenir du financement pour ça? Et est-ce qu'il y a moyen d'empêcher Hector, je sais pas quoi, là, de faire d'autres films? S'il vous plaît.
Bah, c'est du niveau de ce qu'il a scénarisé, quand même.
Ouais. Ouais, non, mais oui, c'est pour ça. Ce mec n'a rien à foutre au cinéma, quoi, enfin, c'est chiant.
Ben, ça fait des films pas chers, pas compliqués, on se prend pas la tête, il dit pas non, il fait ce que demande le producteur, et voilà, quoi. Ça sent le film de commande, tu sais. Bon, les gars, allez, on met ça sur...
On a pris une originale de Benabar, hein, donc film de commande qui a quand même été écrit par son pote, quoi. Donc...
Alors, à se demander, il faudrait regarder si Benabar a pas mis un pied dans la production.
Putain, Benabar devrait s'éloigner définitivement du cinéma. C'est pas du tout son domaine.
Ouais, mais bon, déjà que la chanson, c'est pas son domaine.
Ah oui, la chanson non plus, mais... Ouais, bon, allez, on leur dit la vérité maintenant. Non, mais en fait, c'était génial, quoi. On a passé un tellement beau moment. J'en reviens pas. J'ai envie de retourner le voir de suite. Et toi?
Ah, mais je... En fait, ça me fait du mal qu'un nanar comme Parasite lui fasse de l'ombre.
C'est clair, quoi. Parasite, ils l'ont foutu dans deux salles. C'est inadmissible. Quand t'as beaux-parents qui se tapent une toute petite salle alors qu'ils devraient être dans la grande salle 1 pour profiter de l'immense écran avec de la 3D de qualité... Il y a un gros son. Parce que la musique est géniale. On n'a pas parlé de la musique.
Oh, putain, la musique. Et non, mais je trouve qu'il y a un exploit quand même. Parce que tirer une aussi belle musique à partir de Mario Paint, je trouve que c'est un exploit. Peut-être tu te souviens Mario Paint, l'espèce de tablette sur Super Nintendo, là.
Je me souviens pas qu'on pouvait faire de la musique avec.
Si, il y avait un truc où tu collais des emojis sur... sur une espèce de partition de musique et ça faisait de la musique.
Donc le conseil du jour, procurez-vous la tablette Mario Paint et vous pourrez sûrement faire du Benabar.
Alors c'était pas une... Alors non, voilà, je dis une tablette, c'est une bêtise, c'est une souris. C'était une souris qui se branchait sur la Super Nintendo avec la cartouche Mario Paint.
Ils ont vraiment eu tous les accessoires.
Ils sont trop forts, Nintendo. D'ailleurs, Didier Bourdon, il a un petit côté Mario, tu vois.
C'est ça. Mais Mario vieillira probablement comme ça s'il arrête de faire du stretching.
C'est ça. C'était très mauvais, et mais quand même, on est resté jusqu'au bout, ce qui est un exploit. Donc, en bonus, après le générique, un épisode qui n'est jamais sorti, vous allez comprendre très vite pourquoi. L'épisode du film qui a inspiré celui-là, c'est sûr. Hein. Je pense qu'il y a une parenté, en tout cas, entre les films. Il y a eu un croisement de grands esprits qui se sont rencontrés. Le gendre de ma vie. C'est un épisode merveilleux, vous allez voir, vous allez vous régaler.
Bonjour et bienvenue dans Certains Lamas Show. l'émission qui débriefe les films à la sortie. Alors là, on n'est pas encore en sortie, on est donc en pré-film. Hier, nous sommes allés voir L'Empereur de Paris, qui était le film qui avait fait le plus d'entrées à la séance de 9h, donc le film qui sera pas mal défendu par UGC cette semaine. Et là, nous allons voir maintenant le film qui a fait le moins d'entrées à la séance de 9h, le mercredi de sa sortie, qui est Le Gendre de ma vie. Alors donc, évidemment, vu que le film a l'air très mauvais, Thomas a réussi à faire l'impasse et à s'enfuir, le salaud. Donc, du coup,
il s'est tiré le sudiste.
Il s'est tiré le sudiste.
On a l'émission.
Oui. Comme vous voyez, nous sommes avec Karl et nous faisons la révolution. Salut Karl.
Salut Thierry.
Et pour le coup, on a récupéré Hera. Salut Hera.
Une sale histoire de... J'étais pas au courant qu'on allait voir ça et me voilà.
C'est vrai qu'on t'a vendu un beau programme avec Leto, une histoire de famille, le wildlife d'un Paul Dano qu'on aime beaucoup. Et au final, on va se taper Le Gendre de ma vie et Aquaman. Ça, c'est quand même une belle journée. Est-ce que tu as l'impression de t'être fait avoir un peu, Hera ?
Complètement. J'ai l'impression que ta vision de Noël n'est pas comme celle des gens normaux du tout.
Voilà, pas, donc, comme vous l'avez vu, certains Lama Show est devenu un micro-trottoir. Alors, donc, Le Gendre de ma vie, comédie française, qui n'a pas l'air de parler d'autre chose qu'une comédie française déjà vue des milliers de fois.
Comédie française avec Cadmérade.
Avec Cadmérade.
Attention, c'est encore un autre level, ça.
Ah oui, c'est vrai que c'est des codes particuliers, les comédies françaises avec Cadmérade. Avec aussi François Desbloc. Je sais même plus d'où vient ce mec. Je sais plus si c'est un humoriste ou s'il vient d'Internet ou s'il sert à quelque chose. Voilà, est-ce qu'il y a des attentes particulières pour ce film ? Est-ce que quelqu'un veut se lancer quand même, histoire de dire un truc ?
Si je me barre pas de la salle au bout d'une demi-heure, ce sera déjà pas mal.
Moi j'avais du sommeil à rattraper, du coup ça le fait.
Moi j'espère que ce soit suffisamment nul pour qu'au moins on rigole.
Voilà, donc de grandes attentes hein, en perspective.
Si on s'en sort bien, ça va être assez nul pour qu'on sorte et qu'on aille déjeuner. Qu'on ait une plus longue pause. C'est pas mal.
Tout le temps la parole.
Mais n'importe quoi, chérie, tu dis tout le temps la même chose.
C'est parce que vous comprenez pas ce que je raconte.
Putain, vous, qui c'était ? Le meilleur joueur de rugby de RCT. Et bientôt mon gendre.
Oui, alors tu arrêtes de t'emballer et on rentre à la maison.
M'emballer ?
Oui, comme à chaque fois qu'une de tes filles a un amoureux.
Jamais je le présente à papa. Vu comment il bave devant la télé à chaque fois qu'il le voit, si jamais il le rencontre dans la vraie vie, mais...
Hey, regarde. Regarde qui j'ai croisé totalement par hasard. Il est génial ce mec. J'avais jamais vécu ça moi.
Pour la dernière fois, ce n'est pas ton petit copain, c'est le petit copain de ta fille.
On sort du gendre de ma vie. On va pas spécialement dire quand. Toujours est-il que les impressions ne sont aucunement mitigées. Nous sommes tous unanimes.
On a hésité à rentrer dans la salle, on n'a pas du tout hésité quand il a fallu en sortir.
Ça, c'est sûr. Quand tu te dis que le seul moment sympathique du film, c'est qu'en fermant les yeux, tu as « Love me, please love me » de Paul Naref, parce que t'as pas envie d'associer ça aux images du film, c'est qu'il y a peut-être un souci.
Ouais, c'était horrible. Je me sens pas bien du tout. Je sais pas quoi dire.
Ah, il faut savoir que Hera, enfin, on peut le préciser, au pire, si tu me diras si tu veux qu'on le coupe ou pas, a un souci que je peux tout à fait comprendre avec les femmes enceintes et les scènes d'accouchement. En même temps, c'est pas non plus les choses les plus agréables de la Terre. Et le personnage principal est obstétricien. Donc, voilà, en 10 minutes de film, on se tape déjà 3 accouchements, quoi. Ce qui est quand même.
Très dur pour tout le monde.
Bon après c'est pas des accouchements, enfin c'est de l'accouchement soft de téléfilm, ouais. Pas de sang, il y a pas de bon. Après bon si t'as un problème avec ça, on va pas chier. Mais moi c'est pas avec les accouchements que j'ai eu un problème, c'est avec d'abord la réalisation, puis le scénario, ensuite les acteurs, pas trop les décors.
Moi j'ai un truc à redire sur la lumière. Hein. La lumière,
le flou surtout, c'était flou constamment alors qu'il n'y a rien à filmer quoi.
Le premier plan est flou.
Oui.
Le premier plan de présentation de l'actrice principale est flou.
C'est très grave. Donc c'est l'histoire. Alors histoire quand même qu'on résume parce qu'il y a peut-être des gens qui malgré tout vont dire oh c'est caméra de grand film. Et donc c'est Karl qui va résumer. Allons-y Karl.
En une phrase, c'est Cadmérade qui a très très envie que ses filles baisent. C'est tout. Il veut juste, dès qu'elle trouve un mec, il harponne le mec. Et en fait, c'est censé être drôle parce que normalement, c'est la fille qui est plus à fond sur le mec. Mais là, en fait, c'est le père. Et donc, du coup, tout l'humour du film se base sur le fait que c'est super gênant. Et donc, moi, j'ai été super gêné.
Mission accomplie donc. Non, attends, car je trouve que t'exagères un peu parce que je pense que c'est subversif en fait. C'est sur le fait que normalement le père il est contre le fait que ses gamines puissent avoir un gendre, normalement, enfin qu'ils puissent avoir un gendre, qu'elles puissent avoir un mec. Normalement une vie sexuelle, voilà. Normalement les mecs ont vraiment, les pères ont vraiment des problèmes avec ça par rapport aux filles dans la société. Il y a quand même un cliché qui est assez fort là-dessus. Non, là juste on a voulu prendre faire un revers sur les clichés sur la société, c'est tout. T'es dans l'excès, Karl.
En fait, en plus, il y a un espèce de petit cliché qui est super sympathique, hein, très bien amené et très enclin avec la société actuelle. C'est le papa, oh là là, il a une femme et trois filles, il se sent seul parce que c'est le seul garçon, parce qu'il aime les voitures et le rugby, et oh là là,
et la bière,
et ses filles, elles aiment pas la bière.
Et en plus, il y a son voisin, Patrick Bosseau, et voilà. Ben, il passe son temps à se faire des chatouilles avec ses enfants en construisant des putains de canoës.
C'est exactement ce que je voulais dire. C'est, je sais pas, on n'a pas vu le générique, mais alors je pense que. Que Patrick Bosseau et ses enfants vont juste être crédités à cliché de mec. Parce que c'est eux, regarde, on fait un barbecue avec des saucisses et on se tape et on se fait un petit pogo.
Et on a un gros chien, alors que Cadmerad, lui, il a un petit chien de merde qui s'appelle Princesse.
Bah, c'est vrai, c'est ce magnifique passage où tu vois donc Patrick Bosseau qui balance une espèce de bout de viande dans l'air, le chien l'attrape, oh, le chien viril, il est beau. Et du coup, Cadmerad veut faire pareil avec sa chienne, allez, viens, Princesse, attrape le bout de viande. Et ça tombe par terre et le chien l'ignore. Et là, tu sens le malaise de cet homme qui se dit mais où est ma virilité? Où sont parties mes grosses couilles? Je veux un gendre.
En plus, son travail, c'est quand même de faire accoucher des femmes. Donc le pauvre, il est tout le temps entouré de femmes. Et quand il demande qu'on lui file un autre obstétricien parce qu'il est tout seul, eh ben on va lui filer un gamin, pas un vrai mec. Et du coup, bah sa fille, la principale, là, j'ai oublié le nom de l'actrice, je m'en bats les couilles. Se trouve un rugbyman, donc un vrai mec, et on va boire de la bière avec lui et parler de voiture avec lui. Et putain. J'ai pas envie de parler de ça.
Il y a même ce côté affreux où au début on a l'impression qu'il va juste être en amour sur tout ce qui peut ressembler à un mec qui peut intervenir dans sa famille. Sauf que non, il faut que ce soit un mec, voilà, sous ses propres clichés. Donc vraiment le mec viril, qui aime le rugby, qui ça. Et quand on a l'obstétricien, il y a quand même une scène où ils sont à table et ils se foutent de sa gueule parce que le mec a fait de la danse.
Oui, non, ça va être un retournement de situation et il va apprendre que. Ah là là, les clichés, c'est pas bien. Dans un film bourré de clichés, super. Bah, tu vois, la féministe, c'est un cliché de féministe. C'est le genre de meuf qui donne envie de retirer le droit de vote aux femmes.
Non, je peux pas. Je comprends ce qu'il veut dire.
Non, mais c'est vraiment quand ce genre de. Tu sais, c'est le genre de meuf qui te récite les clichés, on te fait 2-3 blagues sur les femmes, et t'as juste envie de lui dire ta gueule, quoi. Et t'as l'autre fille, c'est celle. Il y a donc trois filles. T'as la perso principale qui commence avec le rugbyman, qui finit probablement avec l'autre obstétricien. T'as donc la féministe. Et t'as troisième qui sort avec un mec depuis un an. Et le gars, ça a juste l'air d'être un mec normal, entre normal et chiant, tu vois. Et elle n'ose pas le présenter parce que bah, depuis qu'elles sont gamines, le père s'excite chaque fois qu'il y a un garçon qui se ramène à la baraque, quoi.
C'est ça. Donc ouais, voilà, du cliché et surtout du cliché mauvais qui a déjà été éculé, qu'on a déjà combattu au cinéma, où on a déjà éclaté ce genre de modèle dégueulasse, pour finalement y retourner. Donc en fait, là, on est sur l'héritage post-Philippe de Chevron, qui va donc sortir la suite de son « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu il y a quelque temps ?» où on se rend compte que même si on essaie de combattre ces clichés, que quand on fait réfléchir les gens de minutes, ils peuvent à peu près admettre que c'est pas très intelligent. Mais on arrive, enfin, mais vu du coup, là, voilà, il y a une espèce de gangrène de ces clichés qui reviennent et qui te montrent bien qu'on n'a pas tant évolué que ça en 2018 et c'est triste.
Ouais, ça me fait un peu penser au Delpy, Lolo, qu'on avait vu il y a quelques années, qui était quand même mieux fait, hein, en termes de mise en scène, c'était quand même un peu plus joli, plus cadré. Mais
oui,
c'était,
d'un point de vue académisme, il était correct. Hein.
Ouais, ça allait, mais niveau scénario que ça allait pas, parce que justement on était encore une fois plongé en plein cliché pour justifier la comédie. Et encore une fois, oui, sur des choses qu'on avait déjà combattues, et en plus réalisées par une femme, donc il y avait quand même un côté un peu... c'était un peu limite, ce truc-là.
Et en plus, là, en plus des clichés, alors c'est censé être une comédie, je n'ai pas souri, une seule fois.
Et personne n'a souri dans la salle, il n'y a pas eu de rire ou quoi que ce soit.
J'ai pas entendu rire, mais même le film marche sur un principe que j'ai trouvé assez fascinant, c'est de raconter la blague qu'on aurait pu te montrer. Genre, à un moment, t'as l'autre obstétricien, Cadmerad doit partager son bureau avec lui. Voilà, et il veut pas parce que c'est son bureau, bon, on le force à partager son bureau. Et on voit le mec, alors, il y a un saut de 2 semaines, ça tu le découvres au milieu d'un dialogue, honnêtement, si on te le dit pas.
C'est vrai que l'ellipse est hyper mal gaulée. Hein.
L'ellipse... de nulle part, et en fait il y a eu 12 changements de relation pour les persos que tu n'as pas vu, et le mec débarque à la baraque en disant « Bon bah je vous apporte vos clés vu que vous m'avez enfermé 2 fois dans votre bureau cette semaine. » Mais ça, dans une comédie, c'est un truc que tu montres. C'est pas un truc que tu balances entre la poire et le fromage.
Bah, il est censé faire du gag en plus. C'est surtout quand les gags, c'est « Ah, je me suis tapé la tête contre le bureau et oh, j'ai glissé sur un vélo. » Alors, tu sens qu'ils veulent faire du gag, mais à ça, on le montre pas. C'est vrai que c'est toujours... Attends, il y a un superbe bruit des... Thomas va se faire tellement plaisir à vouloir monter ça. Thomas, si tu nous entends, ce bruit, c'est pour toi.
Il y a un de tes camarades avec l'accent du sud, Thomas.
Bonjour et bienvenue dans Certains Les Machos, l'émission qui m'a mangé raté l'avion à la sortie. Salut maman.
Salut, Michael Culkin.
C'était Thierry.
C'était Thomas.
Oh. Alors mon cher Thierry, aujourd'hui on va voir un film de Home Invasion. Un peu enfantin, qui nous rappelle les bonnes heures du Maman j'ai raté l'avion, du Home Alone. On va voir Quand on crie au loup, un film de Marie-Lou Berry. Avec Marie-Lou Berry, Gérard Jugnot, Bérangère Krief et le jeune Noé Wodecki. Une histoire très simple, une histoire classique. Le jeune Victor, qui a 12 ans, vit avec son vieux grand-père gardien d'immeuble. Et il aime faire peur aux gens dans l'immeuble et faire croire qu'il arrive des catastrophes. Seulement un jour, voilà, il y a des vrais cambrioleurs, des vrais méchants. Et plus personne ne croit le jeune enfant. Il va devoir tout faire pour les repousser et sauver son grand-père gardien d'immeuble. En voilà une belle histoire.
Ouais, une belle histoire. En fait, on s'est un peu retrouvé là par hasard, on va pas non plus se mentir. C'était un niveau horaire où ça passait plutôt bien. Ce qui est assez spécial avec ce film, c'est que moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ouais, vraiment, pourquoi pas. Dans le sens où ça avait l'air un petit peu bancal, mais...
Alors que moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ah ouais, pourquoi.
Et je me suis dit, pourquoi pas, parce que Marie-Lou Berry, parce que j'aime bien Marie-Lou Berry, cette nana arrive à me faire rire. En fait, je pense qu'elle ressemble beaucoup à sa mère. Il y a le capital sympathie de Maman Balasco qui est sur Marie-Lou Berry, parce qu'elles ont le même genre de... C'est des femmes un peu bonhomiques, un peu fortes, qui font de l'humour par des gags un peu lourds et tout, donc ça me fait plutôt rire. Je m'attends pas évidemment à avoir Gazon Maudit, hein. Mais voilà, le seul truc qui me fait peur en fait, c'est qu'on a entendu parler de ce film, mais quelques jours avant sa sortie, même les bandes annonces, on les a eues cette semaine, enfin la semaine dernière. Je veux dire, c'est très rare d'avoir des bandes annonces qui sortent d'une semaine sur l'autre, quand même. Généralement, c'est quand même un, deux mois avant où ils commencent à teaser un peu le film. Il n'y avait aucune affiche nulle part, ils commencent à en mettre. Tu sens que le film a peut-être eu quelques petits ratés au niveau de sa conception et que du coup, ils sauvent les meubles en parlant quand même, mais qu'ils ne s'attendent pas à grand-chose. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Surtout qu'il est très court, il fait 1h20. Donc j'espère que c'est juste parce que c'est une comédie d'action pur jus et qu'on va s'éclater. Mais le revers peut faire peut-être un petit peu peur.
Il est peut-être sorti un peu à l'arrache pour sortir pour la fête du cinéma, qui était juste avant la sortie, donc peut-être que pour les 2-3 avant-premières du mardi, ils ont pu faire des sorties, des entrées.
Ouais, si c'est ça, ça va. En espérant que le film n'ait pas été rushé pour l'occasion, quoi. Si c'est juste, il devait le sortir dans 2 mois, le film est prêt depuis un moment, finalement, il y a cette occasion-là, on le sort. Allez.
Ouais, moi, je sais pas, j'ai plus l'âge pour ces conneries, comme on dit. Non, on verra. Il y a Gérard Jugnot et Bérangère Krief. Comment ça peut mal se passer? Un film avec un enfant comme un héros principal. Comment ça peut mal se passer?
Il est tombé en descendant de la poubelle. Et il a cru voir des cambrioleurs. Et moi, je me suis dit qu'il fallait peut-être mieux appeler la police, par précaution.
De qui se moque-t-on?
C'est la 3e fois que votre gamin alerte la terre entière pour rien du tout, et vous le croyez encore? C'est le monde à l'envers, vous êtes le gardien, vous êtes même pas foutu de garder votre propre petit-fils.
Ce serait bien que tu prennes ton petit déjeuner de temps en temps avec lui.
Ma maman dit que t'es un primo-relinquant et mon papa un casse-couille.
T'étonne pas si personne veut être ton ami. Tu passes ton temps à mentir.
Alain, au secours!
Papy?
Vous soignez mon frère et fermez-la.
On vient juste de braquer une bijouterie.
C'est qui celle-là?
Celle-là, c'est la petite sœur des deux grands abrutis.
Mais à quoi vous jouez tous les deux?
Allez, venez vous délivrer!
J'ai trouvé la veine du premier coup.
Cat Eyes, Cat Eyes. Pourquoi je chante Cat Eyes? Eh bien parce que c'est le seul truc bien du film. C'est le générique de fin, Cat Eyes. Et c'est aussi une sonnerie de téléphone au milieu du film. Voilà la seule raison qui me donne le sourire en sortant de la salle.
Je puis ça m'a pas fait sourire. Donc du coup, le fait de le entendre générique, ouais, ça fait un clin d'œil. Yahoo, yahoo, les petits fripous.
C'était très 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 bas comme niveau, dis donc.
On a compté 6 rires. Et honnêtement, j'avais envie de prendre la salle en otage et de les enregistrer jusqu'à ce qu'ils s'excusent d'avoir ri. Parce que là...
Oui, parce que les rires, c'était sur un sketch Bourpif. Donc c'est une baigne gratuite. C'est quelqu'un qui explique ce que veut dire DTC. Voilà. Donc traduction dans ton cul, hein, pour ceux qui ne comprennent pas encore. Donc on a du haut, haut, haut niveau. Il y a un petit grain d'image, il y a un petit traitement de l'image qui est intéressant. Donc là, techniquement, c'est sympa. Et encore, c'est vite fait. Par contre, au niveau des cadrages, au niveau des montages, c'est compliqué. Il y a un amour du gros plan, mais balancé à la gueule, ça fait mal aux yeux. Il y a un problème avec le montage dans ce film. Il y a une fois où il y a un effort sur le montage, c'est quand Marie-Lou Berry arrive à l'écran et donc son arrivée est synchronisée sur la musique. Une musique d'ailleurs symphonique, alors qu'il n'y a rien d'épique, il n'y a rien de très fort vraiment à l'écran. Tout est misérable, tout est lamentable. Et la musique en fait des caisses en arrière-plan. Il y a un décalage complet. Au niveau du scénario, le scénario est débile et tous les personnages sont complètement débiles. J'arrive pas à en sauver un. Non, si, il y en a un qu'on peut sauver, c'est le pauvre Georges de 5 ans là, on sait pas trop ce qu'il fout là, le pauvre vieux. On l'exploite parce qu'il a 5 ans. Faut dire au producteur, faut dire aux parents de cet enfant, enlevez-le de ce film, c'est dangereux. Et en même temps, bon, j'ai envie de dire, c'est le meilleur acteur du film, quoi. C'est Georges qui a 5 ans. C'est parce que ça joue tellement mal. C'est pas dirigé, c'est... Oh mon Dieu, c'est catastrophique. J'arrive pas à sauver le moindre truc dans ce film, à part le générique de fin et le petit Georges. Voilà.
Je vais revenir sur le petit dé. Non, il n'y en a pas. Il n'y a aucune idée dans ce film. Toutes les seules choses qui peuvent paraître légèrement idées de mise en scène, c'est pompé. Il y a un passage où Marie-Lou Berry passe une porte et une espèce de gros plan avec des teintes jaunâtres et compagnie. Bon, bah salut, je suis Jean-Pierre Jeunet. Voilà, Jean-Pierre Jeunet qui était allé gueuler sur Guillermo del Toro parce que il a pompé un peu dans la forme de l'eau. Non, il t'a rendu hommage. Elle te pompe. Gueule. Si on faisait une réunion des grands compositeurs de films pour faire regarder ma musique épique, il n'y aurait que John Williams qui serait dans le coin en mode non. Voilà, c'est pompé à mort sur Maman, j'ai raté l'avion, parce que ça essaie d'être Maman, j'ai raté l'avion. Vous avez déjà posé la question de ce que de si Kevin McAllister avait pris l'avion et qu'à la base, c'était son cousin, celui qui pisse au lit, celui qui est un peu con, celui qui fait tout le temps les blagues, celui à cause de qui Kevin se fait tout le temps accuser de toutes les saloperies qu'il soit, si c'était lui qui ratait l'avion. Ben voilà ce que ça donnerait. Voilà, le débile du coin. Parce que bon, je veux dire, le héros, de toute façon, tu l'as dit, hein, c'est pas juste le gamin qui a peur d'un petit peu tout et qui du coup, malheureusement, a appelé un peu trop souvent parce qu'il avait peur dans des bonnes intentions et se fait du coup, enfin, plus personne le croit parce qu'il a trop crié au loup. Non, c'est aussi un débile qui sait pas passer les portes, un débile qui sait pas faire des pièges. Donc du coup, il y a même pas ce côté-là. Bon, après, d'accord, ils auraient pu jouer justement à mort sur le côté maladroit. Et c'est ce que ça essaye de faire, mais ça le fait tellement mal que du coup, tous les personnages sont des débiles les uns après les autres, que ce soit les gens de l'immeuble, les parents, les braqueurs. Il n'y a pas un seul personnage pour relever les autres au final.
Tout le monde est con jusqu'à celle qui appelle les flics avec le haut-parleur, quoi.
Oui, voilà, non, celle qui s'appelle voilà, Bérangère Criff, qui elle a fait ce qu'elle a pu, elle s'en donne à cœur joie. Il y a quand même des passages où on lui demande de faire des grimaces devant le miroir. Hein. Je veux dire, moi je pense justement à Bérangère Criff, à Thomas VDE, bon, qui de toute façon n'est pas un mec spécialement drôle, mais qui se retrouve à devoir cachetonner là parce que bah, c'est des gens qui essayent aussi d'avoir une carrière, qui sont en début de carrière, hein, qui n'arrivent pas à percer énormément, à part à la télé, enfin, qui ont une belle notoriété, mais qui du coup sont obligés de faire ces trucs-là. Tu vois, par exemple, tu penses à Junio, tu penses à ces trucs-là, qui eux sont pas obligés de faire ces trucs-là et qui y vont quand même, va savoir. Hein, peut-être que Junio rendait service à la copine Josiane en mode bon bah allez, je vais faire le film de ta fille, quoi. Mais voilà, même dans Les Braqueurs, le moment où Marie-Lou Berry, on l'iconise quand elle arrive. Quand elle arrive, c'est la petite sœur, oui. c'est le cerveau de la bande.
C'est le seul moment où j'ai eu de l'espoir dans le film, parce que c'est le seul moment où il y a le montage qui fait un effort, où on se oui. synchronise un peu avec la musique, où là on a un personnage imposant. Enfin, je veux dire, elle a quand même une certaine présence, quoi. Donc, Donc là, ça colle avec la musique, on sent que c'est la méchante qui arrive, on a un espoir qu'il y ait quelque chose, et bon, 5 minutes après, c'est terminé. Hein, mais...
bien sûr. Non, voilà, tu dis, elle a une présence, elle en impose, elle a une voix aussi. De toute façon, voilà, comme je disais, c'est Marie-Lou Berry ressemble énormément à sa mère. Si on kiffe la présence de Josiane Balasko dans une scène parce qu'elle a une voix, parce qu'elle l'emporte et compagnie, on va kiffer Marie-Lou Berry. Et donc, du coup, sauf qu'on se dit, ce personnage va contrebalancer. Ça y est, ils ont enfin un braqueur qui va arriver, qui va rattraper les conneries. Sauf qu'elle est aussi conne que ses frères au final. Et ça va jusqu'à, oh, j'ai une hantise des pigeons, quoi. Enfin, je veux dire, ils n'ont rien trouvé de plus intelligent. On va en revenir sur, je sais pas, une autre scène. Mais pour te montrer, il y a des incohérences, mais qui pourraient être relevées par la comédie. Sauf que quand c'est pas drôle, ça sert à rien. Il y a un passage où le personnage principal, la Victor, il tombe. Il tombe du cheval 9e, 10e étage. Et ils sont tous en bas, en mode, oh non, il va tomber. Donc tout le monde passe 30 ans à se décider, au lieu de monter, d'essayer de lui choper la main. Il n'y en a que un, mais qui est déjà à l'étage. Et il y en a une qui fait, attendez, j'ai une idée. Son idée, c'est qu'il y a un des braqueurs qui est un peu plus grand que les autres, c'est-à-dire qu'eux, allez, un homme moyen fait 1m90, lui, allez, il doit faire 2m15. Et du coup, en gros, on ne voit pas le plan où il attrape ou quoi que ce soit, c'est ce mec-là qui a rattrapé le gamin. Alors, quand tu tombes du 9e étage, que ce soit bien clair, hein, tu es un poids mort, tu es très lourd. Donc ça veut dire que si quelqu'un d'un mètre 90 ne peut pas t'attraper, un mec de 2m15 ne peut pas non plus. Et si un mec de 2m15 peut, alors un mec de 1m90 peut aussi.
Je crois qu'on va trop loin.
C'est juste pour dire que voilà, c'est juste pour donner un exemple.
Les enfants. Alors voilà. Et voilà.
C'est débile. Oui, non, mais ça prend les enfants pour des blaireaux. Ça me fait penser au Père Noël là, avec un prophète là.
Oui, alors je crois que Marie-Lou Berry s'est dit je fais ce film pour mes enfants, pour quand ils grandiront, ça leur fera un cadeau.
Eh ben justement, fais un bon film pour tes enfants si tu veux faire un film pour tes gamins. Arrête de les prendre pour les blaireaux qu'ils sont probablement si tu les élèves comme ça.
Merci Thierry.
Ouais. Vous avez subi vos parents, vous avez subi le petit bonus du gendre de ma vie, là vous avez eu Content Crier au loup. On a voulu quand même prouver qu'on pouvait aussi contrebalancer. Donc l'idée c'était aussi de vous dire voilà, ça c'est les comédies mauvaises. Maintenant on va vous parler de trois comédies bonnes. On va commencer donc du coup avec Premier de la classe. Mais vu qu'on a déjà fait la blague pour vos parents il y a 10 minutes dans ton fil d'écoute, tu sais très bien comment.
Non, c'est juste pour le titre. Alors Premier de la classe qui s'inscrit, on peut le dire, dans le Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu universe. Alors, mais on peut avoir de l'espoir parce que Made in China, c'était à peu près le même esprit, donc, enfin, de loin, vu de loin comme ça. Mais il y avait un projet de déconstruire des clichés, alors que la première de la classe, eh bien, c'est de foncer dedans. On a vu la bande-annonce, en tout cas, c'est ça. Alors, pourquoi je dis qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu univers? C'est parce qu'on a Pascal Nzonzi qui joue un père africain autoritaire.
Non.
Si, si.
Ah, c'est rare.
Une mention spéciale pour Pascal Nzonzi, moi si tu veux, ça me rend extrêmement triste parce que malgré tout, quoi qu'il arrive, ce mec me fait quand même pisser de rire tout le temps. Il a des espèces d'intonations et compagnie, même dans des comédies comme ça. Et ce qui m'énerve avec Pascal Nzonzi, c'est qu'à la base, ce mec, il vient du cinéma indépendant américain. Ce mec, il a joué avec Jarmusch. Et puis comme tout acteur français qui se respecte, il a plus de carrière, donc du coup, il cachetonne dans des trucs comme ça, quoi.
Alors, qui nous accompagne pour nous aider dans cette... Parce que nous, les comédies, ça commence à nous ronger, là. Vous voyez l'état à force. Voilà, donc on a des renforts avec nous. Donc, Thierry vient de parler. On a Yassa avec nous.
Oui, je suis venue vous aider.
On a Hera avec nous également.
On m'a forcé.
Et on a Karl.
On l'a forcé aussi.
Ça s'entend. Alors, bon, je dis Pascal Nzonzi. On a Michel Larocque aussi qui vient. Voilà. On a le jeune Mutamba Kaloji. Voilà. Merveilleux. On a Issa Doumbia, on a Nicole Ferroni, on a Thomas VDB qui viennent prendre un petit cachet comme ça. C'est l'histoire du jeune Abou Keïta qui est une grosse quiche en classe. Hein, il est nul partout. Mais il a un père super autoritaire. Et comme il a peur de son papa, eh bien, au moment du conseil de classe, il va embaucher un faux papa pour se faire passer pour son père auprès des vrais profs. Et il va embaucher des faux profs, c'est-à-dire il va prendre tous les losers de son entourage et il va les faire passer pour des profs pour faire un faux conseil de classe à son père. Voilà. Et pour essayer de mentir et de vivre comme ça, de courir après le mensonge, de foncer dans l'illusion. Et il va être rattrapé, évidemment. Ah là 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 là, c'est vraiment terrible. À quoi ça ressemble? Non, je vous demande pas ce que vous en attendez. C'est bon, on va passer directement au film. Je crois qu'on a, voilà, on est assez long comme ça. Bande annonce.
Bon, ça c'est ton faux bulletin, ok?
Mensonge, baratin, mytho.
Je préfère un 16 qu'un 3 sur 20.
Premier de la classe. Tu es ma fierté.
Et un jour, tu seras président.
Tu me fais marrer avec ton père.
C'est parce que tu l'as pas en face de toi. Hein.
Je viens voir à la réunion parents-profs s'il fait si peur que ça.
C'est quand?
Mardi. Ils viennent d'envoyer les convocations.
Cette fois, j'étais mort.
Il fallait une sacrée bonne idée.
Si j'envoyais mon vrai père rencontrer des faux profs.
Wakanda. Faux prof.
C'est Keita, ça vient? Tranquille?
Très bon élève.
Très très bon élève. Work, 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 work. What else? Super!
Vrai père.
Laissez-moi deviner, Yves Saint Laurent.
Non, Abou Keita.
Vrai prof.
Il faut rien. Redoublement à la rigueur, voire deux.
Faux père.
Je vais m'en occuper.
Voilà, voilà, c'était la bande-annonce. Alors, on sort de la salle, on a des rires nerveux là un peu. On a Nicole Ferroni qui joue une ex-prof de biologie, hein, donc ça ressemble à la vraie vie un peu. Et qui pète un peu les plombs et qui a des rires nerveux comme ça, parce que c'est très très dur. Et en fait, je m'aperçois que je suis en train de devenir comme ça. Enfin, je sors d'une comédie française assez souvent. On avait dit que Made in China jouait sur les clichés pour déconstruire et... Et je l'attends. Là, on a une comédie qui joue avec les clichés pour se vautrer dedans. Je crois qu'on a un truc qui est... On a un panorama des gros clichés avec le frère qui a la coupe afro. Qu'est-ce qu'on a
C'est pas tant les clichés physiques, c'est surtout les clichés comportementaux.
Ouais. Le père qui va remercier la nation française, c'est-à-dire qui va à la réunion parents prof, avec l'espèce de djellaba, avec les différents présidents de la 5ème... Ah, j'en ai rien à branler. Un boubou avec les différents présidents de la 5ème République. Sur les échelles du racisme, je sais pas qui prend le plus cher, là, mais je crois
que c'est... Macron au niveau du cœur, quoi.
Regarde, c'est René Coty, c'est ton ami.
C'était marrant, ça. Tu vois, c'était dans le contexte d'un film drôle. Ça change beaucoup de choses. Je peux rien dire. Moi, quand j'ai vu Pascal Nzonzi débarquer avec ce boubou, j'ai quand même esquissé un rire. Parce que j'ai trouvé que la tenue était tellement ridicule que ça, au moins, me disait comment est-ce qu'ils ont pu convaincre un tel acteur, une fois de plus, je vais le redire, de porter ça et de faire ça.
Il commence à passer le stade de la correction, cette idée.
Mais alors, c'est même pas ça. C'est que, tu te souviens, Thierry, il y a des passages dans les films que t'aimes bien où... C'était, je pense à Joss Gigolo par exemple, tu sais, c'est le sketch qui est un peu lourd, qui est très lourd, mais on insiste correctement et au bout d'un moment tu le trouves drôle. Et bien là, c'est un truc qui est assez moyen et puis on insiste et tu le trouves un peu plus lourd à chaque fois et un peu plus gênant à chaque fois aussi.
Ouais. Non, non, quand tu te dis que Olivier Barou passe limite pour un grand réel après ça, c'est qu'il y a un souci.
C'est très gênant, je parle même pas du cliché du sapeur. Hein, il y a évidemment un sapeur congolais, le copain syrien qui parle pas français, qui veut donner du miel à tout le monde.
Oui, alors c'est quoi le délire? Est-ce qu'en vrai c'était Winnie l'ourson, ce perso? C'est quoi cette obsession avec le miel? Chaque du fois qu'il miel. Est dans une salle, il parle de miel.
J'aimerais beaucoup avoir du miel.
Non, mais est-ce que c'est une blague, les rivières de miel et les 72 vierges, vu qu'il est arabe, c'est quoi?
C'est un running gag très lourd.
Je sais pas, il y a beaucoup de miel au Moyen-Orient.
Jusqu'à la blague par texto, quoi. Je sais pas si t'étais là oui, quand tu l'avais la blague oui, par texto, mais...
Ouais.
Voilà, alors, bon, le film fait quoi? Il fait 1h20?
1h22.
Moi, j'avais l'impression...
Il fait plus 1h40 dans le ressenti, hein.
Ouais, voire 2h20,
hein. Non.
Non, mais sérieux. L'introduction, il faut attendre une demi-heure avant que le « Oh, finalement, on va faire un faux conseil de prof » finisse par arriver, parce que ça n'arrive pas.
Quand j'ai vu que 40 minutes de film s'était écoulé, j'ai redémarré mon téléphone parce que je n'y croyais pas. J'étais persuadé que ça faisait 1h50 que j'étais devant cette merde.
Exagéré.
En plus, le scénar est assez creux. Ils sont obligés de mettre des petits sketchs interstices pour essayer de combler un peu. La séquence de Pretty Woman, par exemple, je sais pas...
Oui, non, mais c'est vrai que ça sert à rien. Moi, j'ai une question, en fait, parce que du coup, tu parlais du scénario. Tu parles du fait qu'il va engager le faux papa qui veut le fouetter là tout le temps, qui veut pas se passer pour l'autoritaire aussi, pour que les profs se calment. Ça, c'est un marabout qu'il va voir, qui est un arnaqueur, et il le regarde en mode « je te fais chanter, je dénonce à tout le monde que t'es un arnaqueur, donc tu viens ». Du coup, le mec accepte. La prof d'SBT, elle est folle, elle est dans un HP, elle suit d'accord. Par contre, les autres, il les convainc comment? Parce qu'il les rémunère avec quoi? Clairement, il n'y a jamais des notions d'argent. Surtout quand t'as Thomas VDB là, qui va faire le faux prof de sport, là, qu'un mec de Seki, qui lui dit « ça va te coûter cher et compagnie, moi je sais comment ça fonctionne ». Il propose rien. Hein.
Non, mais lui, il est débile en fait.
Oui, non, il propose rien, mais les gens acceptent. Non, mais il pourra accepter moyennant quelque chose. Et on ne sait pas pourquoi ils le font.
Ouais, ouais, non, mais il y a plein de trucs, donc, on ne sait pas pourquoi.
Elle accepte parce que, bon, vas-y, je le fais.
Il y a aussi un passage où, à un moment, il fait un truc très grave. Alors, il avoue à son père ce qu'il a fait. Le problème, c'est que du jour au lendemain, donc une fois qu'il avoue à son père ce qu'il a fait, tout le monde lui fait la gueule d'un coup et on ne sait pas pourquoi.
Non, mais si, parce qu'il a donné les clés à l'autre couillon.
Oui, mais on ne sait pas que les autres le savent.
Parce qu'il a dû l'avouer ça aussi, je sais pas.
Et il y a aussi un truc, c'est que le réel a tellement conscience que finalement filmer les trucs intéressants ou filmer, dire des trucs avec la caméra, il n'y arrive pas, que les moments clés, les aveux clés, les passages où il explique l'histoire à quelqu'un ou quelque chose, en fait, il y a un arrêt sur image et à ce moment-là, je lui ai dit ça. Pour nous épargner ce moment douloureux, parce que c'est
On l'a vu jouer pendant une heure et demie, t'avais envie de le voir jouer ça? Non, parce que ça joue excessivement mal, hein. Tout le monde. Dire même Nzonzi qui, pareil, peut cabotiner comme pas possible et bien se démerder, même lui, il a pas envie, quoi.
Mais il parodie son rôle de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.
Ouais, c'est ça, ouais. Michel Rock, je me pose de sérieuses questions, hein. Je pense qu'on est vraiment en train d'arriver beaucoup plus tôt à un futur proche. Elle commence à ressembler à Cassandra, la dernière humaine dans Doctor Who. Tu sais, juste la planche avec des yeux, là. Qui a plus d'expression.
Non, sur une autre note un peu plus... peut-être un peu plus critique, un peu plus lourde. Ce qui m'embête avec ce type de film, c'est quel message tu fais passer. Parce que les personnes qui viennent te voir, qui viennent voir ce film, sont des personnes qui ont envie de se détendre et qui ont envie d'humour, sont des personnes qui vont être friandes de clichés racistes, j'entends. Mais quel message tu fais passer? Tu fais passer le message que toutes les familles qui viennent d'Afrique ont des gros soucis d'intégration. Tu fais passer le message que dans ces familles-là, t'es hyper dur avec tes enfants, que tu les respectes pas et qu'il n'y a jamais une famille où ça se passe bien et que c'est tous des cas sociaux. Long story short, parce que là c'est un exemple, mais c'est tellement repris dans ce type de comédie là qu'en fait on a en droit de se demander si c'est vraiment le message qu'on passe notre temps à véhiculer dans les comédies françaises. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à aller criser sur les états d'intégration, etc., mais jamais tu verras une famille d'origine africaine bien intégrée avec qui ça se passe bien, alors que c'est des histoires qui existent aussi. Reste que t'es dans un environnement où quand il prend un faux père pour jouer le rôle du père pour une réunion parents-prof, le mec sort la ceinture et le frappe. Est-ce qu'il y a un moment où on pourrait arrêter avec ces trucs à la con et est-ce qu'on pourrait avoir des infos un peu mieux sourcées pour recréer de la comédie autrement? J'en demande beaucoup à ce film, mais c'est juste que là, je suis un peu dans un état exacerbé des clichés africains. J'aimerais bien qu'à un moment, on parle de cette culture d'une belle manière et qu'on lui fasse honneur plutôt qu'on lui crache à la gueule.
Après, il n'y a pas vraiment de subtilité dans l'écriture. On parle du père parce que c'est l'accroche sur l'affiche. Il a un rôle, c'est père sévère. Point. Et zéro subtilité, quoi. Voilà.
Ça existe.
Là, je te rejoins carrément là-dessus, tu vois, parce que il faut aller aussi dans les notes sérieuses, parce qu'au bout d'un moment, une comédie véhicule des choses et véhicule des messages, et c'est encore plus malsain et dangereux qu'un film qui essaie de te moraliser.
Et après, le message « Oh là là, on n'a pas d'argent dans l'éducation nationale, oh là, c'est trop dur à la fin », qui est balancé comme ça, la va-vite.
Carrément intéressant. Bah, carrément, ce message-là était bien plus intéressant dans le film de... comment il s'appelle ? De Michel Leclerc.
La lutte des classes.
La lutte des classes. Où justement, on te parle de l'école, on te parle du côté, même l'école finit par partir en couille. Et justement, il t'explique intelligemment le truc. C'est d'accord, ça met des gros sabots aussi, mais tu sens qu'il y a un vrai message derrière. Là, ce qui m'a moins dérangé, c'est t'as la prof qui dit à Abou justement, ouais, non mais de toute façon, c'est quoi ton avenir? C'est quoi ton avenir? C'est redoubler trois fois et la prison. Attendez, oh, c'est un petit con. C'est un petit con qui est sacrément malin d'ailleurs parce qu'il essaie de monter des plans derrière son père et s'il se met à travailler, il voit que finalement il peut avoir des bonnes notes. C'est juste qu'il a pas envie, il a envie de s'éclater. Voilà. Mais oui, c'est un petit con, c'est pas un gars qui a tourné vers la délinquance. D'ailleurs, quand la délinquance se mêle, la vraie délinquance, hein, quand elle se mêle à lui, il est pas d'accord. C'est pas un gars qui va tout à coup se dire ah ben allez j'arrête, je me mets à dealer du shit, à péter des trucs, à voler des gens. Il est pas du tout comme ça. Lui, il va finir comme ses frères qui trouvent pas de taf et compagnie. C'est ça que le père veut pas. Et c'est ça, enfin, ça le père c'est ça. Il est en mode moi je travaille pour subsister à cette famille, il faut que vous travailliez. Et en plus, même s'il parle de présidence et compagnie, je pense que le père, il est même pire de son fils qui à la fin finit maçon. Je veux dire, dans l'idée, je pense que si on le tournait un peu mieux et qu'on l'avait dit comme tel, le père il veut juste que les mecs comprennent que c'est important de travailler normalement et faites-le. Mais carrément pas le cliché du ah bah vu que t'es un petit noir dans une école de ZEP, dans une banlieue, tu vas forcément finir en zonzon si tu travailles pas bien à l'école, ça me saoule aussi, tu vois. Une façon de les condamner direct, alors que là c'est un petit merdeux, on n'a pas vu justement les mecs qui les bisutent à l'école. Lui par exemple, ouais, il finira peut-être en zonzon.
Quand tu fais une comédie, t'as une responsabilité et t'as une responsabilité du message que tu transmets. Qui là n'est absolument pas pris entre les mains et qui véhicule exactement ce que tout le monde croit sans observer les différenciations. Donc ça devient limite inadmissible de voir ce genre de choses au cinéma, sincèrement. Pour ça particulièrement.
Thierry mentionnait la lutte des classes, le film. Qui a la particularité d'être un film qui s'intéresse au milieu de l'éducation, mais aussi au milieu social de tous ces personnages. Premier de la classe, on a absolument rien à foutre. C'est juste, ah tiens, on a un Shintok, puis lui faire l'accent. Vas-y.
Non mais, En parlant d'accent là aussi, c'est quelque chose aussi qui m'a embêté parce que il y a deux ou trois personnages qui ont des accents et c'est amené de manière à ce qu'on se, même pas qu'on rigole, à ce qu'on se moque d'eux en fait. Tu vois, alors qu'on rencontre plein de gens qui ont des accents et dans la vie de tous les jours, ouais, ça voilà.
On vit pas avec. Ouais.
Franchement, je voyais comment c'était amené et c'était fait pour se moquer d'eux quoi. C'était pas fait de manière légère. Enfin, je sais pas de quelle manière ça aurait pu être fait, mais c'était mal amené quoi. C'est-à-dire que le marabout là qu'il va voir et qui mélange le masculin, le féminin, etc. Alors qu'il a pratiquement pas une once d'accent, on sent des fois il parle et en fait j'ai l'impression que des fois il perce un accent, que c'est forcé aussi. Et du coup en fait ça vient renforcer tout ce que vous avez dit là juste avant quoi.
L'une des toutes premières vannes du film, c'est on dit à Michel Larocque mais tu es prof d'SVT toi. Elle fait bah ouais, bah machine elle est prof de PS. Et là la caméra se tourne et on voit une grosse en train de bouffer des chips et se faire je t'en veux. Voilà.
Ça, j'avais zappé ça.
Oui.
C'est avec tout le monde.
Ah. C'est voilà, c'est
j'avais
ça.
J'avais totalement oublié.
C'est vrai que ça c'était
Ouais, c'est ce niveau-là. C'est une prof. Alors Michel Larocque, elle joue une prof de technologie qui veut pas toucher un ordinateur. Voilà.
Oui, voilà. J'aime pas l'informatique.
Et le gamin, il joue un mec nul en maths mais qui peut te coder un programme en une après-midi. Là, c'est pas un mystère, Carl est parti au milieu. Moi, j'ai beaucoup hésité. La moitié du film quand on passe au j'ai voulu tenir jusqu'au recrutement des profs. Parce que j'ai eu un semi-espoir à l'apparition de Thomas VDB qui fait du Thomas VDB, hein, c'est ça, ok, et qui tient un peu la première fois, à son premier passage, ça se passe bien, j'ai eu un pseudo-espoir. Et après, bon, on va recruter d'autres profs et c'est dur. Et après, on passe au conseil de classe, le fameux conseil de classe, enfin, la réunion parents-prof. C'est pas exactement pareil, mais voilà. Et là, on revient sur le passage de Thomas VDB et j'avais qu'une envie, c'était partir. Là, vous m'avez attaché, vous m'avez tiré la chemise pour que je reste dans la salle, mais...
Ouais. T'es témoin, à ce moment, pendant toute cette scène, j'ai fait « ferme ta gueule ».
J'avais qu'une envie, c'est qu'il la ferme. Et le pire, c'est que les profs suivants, c'est pareil.
Mais en plus, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent avec la personnalité du papa, c'est que son fils, il l'amène dans un bâtiment délabré, ça fuit et tout ça. Je veux bien que ce soit des ZEP, mais bon, là, ça ressemblait à un bâtiment abandonné, quoi. Et le papa, il pose pas de questions. Il comprend.
Une prison remplie de zombies.
C'est ça. Et son fils court en fait d'un point à l'autre pour assister aux deux réunions parentales, et son père ne se pose pas de questions. Il lui dit pas où tu vas, qu'est-ce que tu fais. Chaque prof en fait, il va aux toilettes quoi. C'est complètement incohérent.
Oui, et puis il y a pas d'autres élèves dans le bâtiment.
Oui, voilà, il y a pas d'autres élèves, il y a pas d'autres parents. Ils arrivent 2 heures avant, l'école est vide, il y a pas le directeur.
Non mais c'est émouvant parce que le père il sait pas lire. Sois ému, hein. Sois ému. Père,
on te l'a dit, faut être ému, ok.
Comment s'appelle le père, Thomas? Le papa s'appelle Conan.
Conan.
Ah, c'est vrai.
Et au début du film, il dit. Il s'appelle Conan, mais on l'appelait Conan le barbare. Vous n'avez pas ri. Et moi, dès le début, ça m'a flingué avec une blague sur mon deuxième film préféré tout le temps. Oui, Conan le barbare, je vous emmerde.
Non, moi j'ai ri de désespoir, moi. Moi, je riais, franchement, il y a des moments où je riais de dépit et de désespoir, c'était affreux.
C'est vrai qu'elle était affligeante, et quand on commence le film là-dessus, c'est très très dur. Alors, moi-même, je dois faire mon mea culpa, on fait une spéciale comédie, je critique le niveau de l'humour de ces spéciales comédies. Il y a une différence, c'est que moi, je ne fais pas payer l'écoute du podcast. Donc, mes vannes sont gratuites, hein, elles sont libres de droit, même si elles ont été reprises 1 milliard de fois. Hein,
Au passage, elles ne coûtent pas 20 millions.
Ouais, non, voilà. Il n'y a pas une exigence, il n'y a pas 3 mecs qui ont bossé sur l'écriture de ces vannes. Hein, donc, il faut remettre les choses dans leur contexte.
Tu auras toujours, quand tu vas en parler autour de toi, de ce truc-là, tu auras toujours quelqu'un qui soit s'est marré devant le film et qui va dire « Oh, c'est bon, c'est une comédie et compagnie. Bah, » Heureusement que lui, il va se prendre ce recul-là en mode « Bon, je me suis marré, je me rends pas compte d'une cible derrière. » Mais en réalité, c'est hyper inconscient. Et en réalité, on rigole de ça, on sort de là quand on est jeune, et bien après, on trouve que c'est rigolo. Donc du coup, on refait des blagues dessus. T'as envie de rire sur les clichés africains, parce que pourquoi pas, après tout, oui, il peut y avoir des accents grossiers, et oui, c'est marrant, comme nous, quand on entend un accent belge, quand on entend un accent truc, sans prendre de distinction de couleur, en mode un accent, c'est marrant. C'est vrai, on a des accents régionaux et compagnie.
Merci d'exister.
Ouais. Voilà.
C'est ça que vous nous écoutez.
Exactement.
Merci à vous.
Merci Jean-Jean. Et tu veux te marrer sur des accents africains, mate à la limite un truc qui est fait, qui n'est pas forcément beaucoup plus drôle, mais qui au moins est fait avec des bons sentiments, enfin un bon esprit. Fait par Eboué et Njijol, genre le crocodile Botswanga. Parce que quand ils font des clichés, quand Njijol fait son dictateur africain, c'est le mec qui fait exprès de faire le dictateur africain pour être intégré. Donc en fait, il est en train de montrer que c'est pas normal et que ce cliché-là n'existe pas puisque c'est lui qui l'invente. Voilà, juste pour dire que c'est moins toxique.
Et il n'est pas obligé de faire une scène genre oh, le père il parle dans sa chambre, il va te dire oh là là, le racisme c'est dur. Histoire de se dédouaner un peu.
Ah bon?
Bah, je savais évidemment.
Pas. Mais c'est dit textuellement, quoi, en plus.
Oui, c'est, du... c'est, ben, ça, c'est ça.
Ils arrivent avec les gros sabots, quoi.
On s'emmerde pas.
C'est l'autoracisme.
Si ce film marche, parce qu'on sait jamais, hein, parce qu'il fera marrer des gens, ça me fait chier pour des gens qui font des comédies bien plus subtiles que ça, sur les mêmes sujets, alors, et qui te font réfléchir un minimum, quoi, et qui sont juste pas nocifs dans leur discours.
Alors, ce matin, les chiffres des entrées sont tombés, hein. Bon, alors, c'est pas le premier du classement, hein.
De la classe.
Dis-moi que c'est pas Anna de Besson, s'il te plaît.
Alors, il est deuxième.
Oh putain.
Derrière, Les Enfants de la Mer, dont on a fait un épisode exprès dessus.
Oh, en fait, tout va bien.
Et en plus, c'est l'épisode qu'on diffuse au moment où on enregistre, c'est merveilleux. D'ailleurs, on va vous avouer un truc, si on voit ce film pas terrible, c'est qu'il y a des problèmes de planning et qu'on voulait pas aller voir Anna. Parce que la bande-annonce est assez lambda et que voilà.
Luc Besson.
Surtout et que Luc Besson. Bref, c'était bien les comédies, hein.
Ah ouais.
Je préfère les bons films.
C'est quoi les prochaines? Je me demande.
Non mais on va boucler cet épisode, c'est assez long comme ça.
Attends, on
n'est pas allé voir Ibiza.
On n'a pas encore.
Putain, on n'a pas vu Ibiza.
Il nous manque encore les communautés slaves, indiennes, pakistanaises. Latino. Il y a encore plein de gens avec lesquels on peut être raciste.
Merci Thierry.
Merci Thomas.
Merci Hera.
Merci Thomas.
Merci Yassa.
Merci Thomas.
Et merci Car, je reconnais l'effort que tu as fourni.
Peut mieux faire.
Peut mieux faire.
Pour l'année prochaine.
On a bien rigolé, hein. Oh.
Je ne préconiserai pas le redoublement parce que ça voudrait dire que je le revois et c'est pas possible. C'était Certains les Machos, spécial comédie française pleine de rigolance. Merci Thierry d'avoir subi ces films avec moi.
Attends, j'en peux plus, putain. Oh, je repense encore. C'est ça que j'étais le gros noir, là. Puis il parle comme ça, puis il a des boubous. Oh, qu'est-ce qu'on a bien rigolé.
Oui, il fait un jeu de mots sur Conan le Barbare et tout.
Oh là là, et puis Marie Louberry, là, je suis la méchante. Oh, j'avais jamais vu ça, j'étais trop content.
Et quand il y a Benabar qui court aussi, c'était merveilleux. Du haut niveau, je crois que ça nous a marqué. Je crois qu'il va
faire une comédie nocive.
Je crois que ça nous a marqué, il va falloir qu'on arrête ce genre de conneries, on va repasser à des vrais films, j'espère, très bientôt.
En plus, je suis en train de me dire que là tu regardes déjà en très peu de temps, on a quand même vu tout ça. Il y avait Tanguy 2, il y a eu Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a encore fait, un bon Dieu de mes couilles là. Il y a Ibiza, il y a C'est quoi cette grand-mère, là on a vu la bande-annonce. C'est chaud quoi, enfin je veux dire, je sais qu'il y a toujours eu ces comédies là. Mais là j'ai vraiment l'impression que cette année c'est concentré quoi.
Il en arrive toujours plus. On n'arrivera pas à gérer.
Ah, j'ai envie de revoir à bras ouverts, tiens.
Ben oui, on n'est plus à ça près.
Mais j'aimerais bien qu'il sorte un director's cut et qu'il l'appelle vraiment, s'il vous plaît, comme il voulait le faire à la base. Ah, Philippe de Chauvron, on t'aime.
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à Clac Podcast, C-L-A-A-C Podcast. Partagez l'épisode et vos remarques. Est-ce que vous avez aimé ces films ou pas? Est-ce que vous êtes choqué par ce type de comédie? Ça nous intéresse de savoir quel est votre avis justement sur le positionnement de ces comédies, sur leur manière de faire passer des messages, on va dire, hein, à leur façon. Êtes-vous friand de comédie française? Voilà une question. Abonnez-vous également pour suivre les épisodes et les écouter dès leur sortie. A très bientôt. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.
Ha 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 ha!